Nous remercions Monsieur Michelini d'avoir accepté de prendre au pied levé le remplacement de son collègue italien, d'avoir bravé les aléas du TGV et du métro, et donc d'arriver pour répondre, pour rebondir sur les propos de Monsieur Cassuto.
Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation. En fait, je m'appelle Gualtiero Michelini, je suis magistrat. J'ai travaillé comme juge pénal à Turin, comme juge de travail à Rome, au ministère de la Justice à Rome aussi. Et maintenant, je travaille comme expert national détaché à la Direction générale justice de la Commission européenne. Merci à Thomas Cassuto aussi pour l'analyse générale que je partage en principe. Je suis d'accord, je suis aussi optimiste quand on parle d'harmonisation. Je peux partir de ce que nous avons en commun entre la France et l'Italie sur les systèmes pénals. Nous avons l'héritage du droit romain, de la codification de Napoléon, la constitution écrite, la séparation des pouvoirs. Nous avons la même organisation de la magistrature, magistrats de carrière de l'État central, recrutement par concours, pas de procureur national. Nous avons quand même des différences importantes. Pour exemple, nous avons une cour constitutionnelle qui intervient après la loi. Elle peut annuler la loi qui un juge doit appliquer dans un certain procès. Alors, selon une certaine procédure, il y a la possibilité d'annuler ces lois après sa approbation. Nous avons aussi l'action pénale obligatoire. Nous n'avons pas de lien entre les ministères publics et les ministres de la justice. En Italie, nous avons aussi un grand nombre d'avocats, environ 250 000. Et nous avons un accès assez facile à la justice, mais l'aspect contraire, c'est la longueur des procédures. Nous avons le plea bargaining depuis 89, la réforme du code de procédure pénale. Ma surtout, ce que nous avons en commun maintenant, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, qui pose les valeurs fondantes de l'Europe, surtout l'interdiction de la peine capitale, pour dire, dans le domaine pénal. Et nous avons maintenant aussi la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a les mêmes valeurs du traité européen, qui peut avoir une application directe, peut-être, par les juges nationaux, avec l'intervention, l'interprétation préjudicielle de la Cour de justice de Luxembourg. Mais c'est un cadre de valeurs communs, des principes qui sont en vigueur pour toute l'Europe. Et Thomas Cassuto a aussi cité la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, c'est les juges préétablis, les juges naturels, disons, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du génocide, et a des règles, des procédures communes entre les pays de droit civil et les pays de common law. Un autre important élément commun, c'est l'acquis communautaire. Les traités de Lisbonne a modifié le traité de Lisbonne qui est entré en vigueur à fin 2010, a modifié la procédure du droit pénal européen. Maintenant, les droits pénaux européens suivent les méthodes communautaires. Ça veut dire que les normatives européennes sont approuvées par majorité qualifiée. Il y aura des règlements et des directives, même dans les domaines de la justice pénale, qui jusqu'en 2010, au contraire, a suivi les méthodes intergouvernementales. Et nous avons l'espace de justice, liberté, sécurité, le mandat d'arrêt européen qui a remplacé l'extradition. Ça veut dire une procédure judiciaire a remplacé une procédure par moitié judiciaire et par moitié politique. Alors, tout ça pour dire que le titre de sa conférence, c'est une harmonisation impossible. Je crois que non, l'harmonisation n'est pas impossible, est difficile, mais est quelque chose que nous sommes en train de voir et de témoigner. Je peux directement témoigner que quand j'ai commencé à travailler dans les tables européennes il y a 10 ans, 12 ans, les mots harmonisation étaient interdits. Était vraiment impossible même de prononcer les mots harmonisation dans un contexte de justice pénale à Bruxelles. Maintenant, le mot harmonisation est dans les traités. L'article 83 parle des mesures d'harmonisation pour les crimes, les infractions pénales plus graves en Europe. Les Eurocrimes, les crimes européens, le terrorisme, la traite d'êtres humains, la construction européenne part toujours de l'hôte et après elle descend. Mais l'harmonisation est explicitement citée dans les traités sur le fonctionnement de l'Union européenne pour définition et sanction dans ces domaines. On a aussi Eurojust, il était déjà cité. Eurojust, c'est l'agence européenne de coopération judiciaire. Elle a encore une structure, disons, intergouvernementale parce qu'il est composé par des représentants des États membres, des membres nationaux. Mais ils travaillent tout ensemble à La Haye pour la coopération judiciaire pénale européenne et aussi les traités de Lisbonne. Dans les traités de Lisbonne, ils sont prévus des nouveaux pouvoirs pour Eurojust, notamment les pouvoirs de déclenchement d'enquête, les pouvoirs de coordination d'enquête, les pouvoirs de résolution des conflits de compétences. Tous ces pouvoirs peut être donné à Eurojust avec un règlement selon la procédure législative ordinaire, ça veut dire majorité qualifiée. Et à partir d'Eurojust, les traités pourvoient aussi l'établissement du parquet européen. L'article 86 pourvoit que pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, un parquet européen peut être établi et ce parquet européen pourra exercer devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions qui concernent l'intérêt commun de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. Les parquets européens, c'est un défi difficile. Il faut avoir l'unanimité pour l'approbation du parquet européen ou une coopération renforcée au moins entre 9 États membres. Il faut que des règles sur les statuts du parquet européen sont à son agré, des règles sur l'admissibilité des preuves, des règles de procédure pénale, des règles sur les droits de défense. Les codes de procédure pénale nationaux doivent être changés pour permettre au parquet européen d'exercer l'action publique devant les juridictions nationales. Mais quand même, il est écrit dans les traités et je dois dire que la Cour de cassation française, par exemple, a déjà fait beaucoup de réflexions sur ce sujet, des importants séminaires. C'est quelque chose qui est débattu entre les experts dans ces domaines et qui est dans le futur. Pas demain, mais après-demain, je peux dire. C'est une procédure progressive, les droits pénaux européens, une procédure dynamique qui est lancée. Je paie, je veux dire seulement un mot pour comparaison sur les États-Unis, un autre argument. Thomas Cassuto a mentionné les difficultés parfois à comprendre les systèmes des autres systèmes, notamment les systèmes des États-Unis, mais il a aussi mentionné qu'il y a la possibilité de travailler ensemble s'il y a la volonté et l'intérêt de le faire. Alors, dans les domaines de l'extradition et de l'entraide judiciaire, en janvier 2010, deux agréments sont entrés en vigueur, l'agrément sur l'extradition et l'agrément sur l'entrée judiciaire, l'accord sur l'extradition, pardon, et l'accord sur l'entrée judiciaire avec entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Ça veut dire qu'il y a des accords européens qui sont complémentaires aux accords bilatéraux entre les États-Unis et les 27 États membres de l'Union européenne, et ces traités bilatéraux doivent être cohérents avec les traités de l'Union européenne. Et cet accord pose des règles communes, pour exemple sur la peine capitale. Avec cet accord a été clarifié sur tout le territoire de l'Union européenne qu'il n'y a pas d'extradition quand il y a la peine de mort aux États-Unis pour un crime qui est suivi par la peine de mort. Et il y a aussi une règle qui est technique mais assez importante, il y a la règle de la double incrimination. Ça veut dire que l'entrée judiciaire et l'extradition sont possibles toutefois qu'il y a le même crime dans les deux juridictions. Avant, il y avait une liste des crimes. Et alors, l'approche, le raisonnement avec la double criminalité, c'est un avancement pour la coopération. Il y a toujours des difficultés pratiques sur la cyber evidence, sur le cyber crime, par exemple, parce que tout. Les internet providers sont aux États-Unis, alors il y a un différent flux de requêtes d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Mais quand même, il y a un cadre commun pour traiter, pour négocier et pour discuter des cas concrets, pour coopérer dans des cas concrets. Pour arriver à des conclusions sur cet raisonnement, je pense que la discussion sur l'harmonisation, les rapprochements, ce n'est pas seulement une discussion sémantique. On parle de reconnaissance mutuelle, de rapprochement, de législation, d'approximation et d'harmonisation. Il y a des différences sémantiques, mais il n'est pas seulement un conseil sémantique. Nous avons des grandes possibilités qui sont offertes par les traités, par les traités de Lisbonne, qui entrent en vigueur en décembre 2010. Et alors, il ne faut pas fermer sur les questions sémantiques, mais il faut mettre en œuvre ces possibilités qui sont assez avancées. Les mesures d'harmonisation sur l'Eurocrimes, sur l'Eurocrime, les parquets européens, les règlements et les directives dans les domaines de la justice pénale sont des possibilités qui seulement il y a 10 ans il était considéré impossible. C'est un défi difficile, mais c'est un défi assez intéressant. C'est notre défi des practitioners, des gens qui pratiquent les droits pénals dans tous les jours dans l'activité professionnelle. C'est notre défi pour l'intégration, et je pense que vraiment l'intérêt commun à d'avoir un système de justice pénale juste, efficace et intégré, c'est vraiment la force de convergence vers une meilleure intégration qui est possible avec les instruments européens qui maintenant sont à notre disposition. Merci pour votre attention.